Chapitre 18. Premier carillon. Atlantis et René, debout auprès de la couche de Cariclès, avaient dû se reconnaître impuissants à le tirer de son inquiétante stupeur. Du moins, ils avaient cette consolation de savoir qu'il vivait, de croire que, dans cette sorte de syncope, il retrouverait des forces. Et puis, ils avaient tant à penser, à espérer, qu'il ne pouvait être tout à fait malheureux. D'ailleurs, Cariclès, en sa manière un peu hautaine de demi-dieu ennemi de ces témoignages démesurés de douleurs ou de joies, si funestes à l'harmonie et à la beauté, ne leur avait-il pas commandé le calme et le courage ? N'avait-il pas fait entendre qu'il ne voulait que paix et sérénité autour de son lit funèbre ? Il veillait donc, tantôt se relayant pour aller prendre nourriture ou repos, tantôt renouant cette causerie qui les unissait à tout instant davantage, tantôt retombant dans ces silences sans contrainte qui sont le privilège d'une entente parfaite. On était parvenu au 7e jour après le départ de Kermadec pour les régions supérieures. René avait compté les heures. En ce qui touchait Kermadec et Patrice, il n'y avait pas à douter. Obéissance aveugle d'une part, dévouement absolu de l'autre. Il serait là à l'instant prévu si rien ne se mettait à la traverse. Mais cette possibilité entrait pour peu de choses dans les calculs du jeune marin. Il était avant tout optimiste. Il possédait cette heureuse disposition qui, en croyant tous les miracles possibles, en active la réalisation. Le ton de parfaite certitude qui régnait dans son appel avait agi puissamment sur la résolution d'Étienne. Il ne se doutait guère qu'il devait déterminer aussi celle d'Hélène et de sa mère. Des heures se sont écoulées. Le timbre se fait entendre. Atlantis demeure auprès de son père. D'un pas rapide, René se dirige vers la porte d'eau. Avec quelle joie il distingue, à travers l'épaisseur liquide que traverse un jet puissant de lumière électrique, sa Titania, son œuvre, noire, trapue, compacte, sans aucune des lignes qui font la grâce du navire ordinaire, toute sa vertu et sa beauté intérieure. Mais combien précieuse par ce qu'elle apporte! Le cœur battant, René fait jouer la crémaillère qui ouvre les écluses. La porte s'entrebâille, l'eau pénètre sans violence. Peu à peu, la chambre inférieure s'emplit. La porte est grande ouverte, le torpilleur est entré. La porte extérieure se referme. René met alors en action la pompe aspirante qui vide la chambre inférieure. Il voit le niveau de l'eau baisser, baisser avec son lourd fardeau, baisser jusqu'à la dernière goutte. C'est fini. Titania est à sec sur le sable du bassin. D'une main impatiente, René en ouvre la porte. Il court au navire, il en escalade le flanc. Il se précipite vers l'escalier, la main tendue pour serrer la main de Patrice, celle de Kermadec. Il tombe dans les bras de sa mère. Des exclamations, des pleurs de joie, des poignées de main, des questions sans réponse, un ravissement général. Ce fut d'abord un tumulte à ne pas s'y reconnaître. Les yeux baignés de larmes, Madame Caudal ne pouvait se lasser de contempler son fils, de l'embrasser. Dans une tempête de paroles incohérentes, elle répétait mille fois qu'elle avait cru ne plus le revoir, que la mère les lui avait tous pris, tous la cruelle. Elle le grondait de sa témérité, le louait de son courage, l'accablait de tous les doux noms puérils d'autrefois, oublié depuis longtemps, ressuscité soudain sous l'empire d'une émotion puissante. « Tante Alice !» disait Hélène, essayant de réagir contre l'attendrissement universel. « Si vous nous cédiez un peu votre René, nous ne serions pas fâchés, nous non plus, de l'embrasser ou de lui dire un mot. « Ah, remercie-la bien !» fit Madame Caudal en se dégageant des bras de son fils. « Si je suis ici, c'est à cette chère enfant que je le dois !» Elle s'arrêta soudain, les yeux dilatés, comme frappée d'une vision surhumaine. Kermadec, qui faisait comme elle face à la porte, le béret à la main, se confondait en sourires et courbettes. Tous se retournèrent. Un cri de surprise et d'admiration leur échappa involontairement. Atlantis venait de paraître. Attirée par les voix joyeuses, elle s'était approchée. Mais parvenue au seuil de la chambre, l'étonnement la tenait clouée. Ce qu'elle voyait était si nouveau, si inattendu, et ce n'était pas ce tumulte de voix, ce nombre de personnes, spectacle certes assez étrange pour la jeune recluse, qui l'avait ainsi frappée de stupeur. Dans ce groupe, qui à ses yeux prenait les proportions d'une foule, ce n'était ni Patrice, ni Kermadec, ni René lui-même qui tenait son regard attentif et rivé. Ce qui la fascinait, c'était Hélène, avec son costume de voyage en drap gris, ses gants, sa beauté brune, toute sa silhouette de femme moderne. Mais ce qui l'attirait, la remuait jusqu'au fond de l'âme, c'était Madame Caudal, une mère. De beaux poèmes avaient parlé d'amour maternel à la pauvre orpheline. Chariclès, avec des paroles toujours nobles et relevées, avait touché ce sujet. Il n'avait pas scellé à Atlantis qu'en lui prenant sa mère de si bonne heure, les dieux l'avaient sévèrement traité. Toutefois, autant par prudence que par réserve naturelle, il n'avait jamais appuyé sur cette matière. La jeune fille avait ignoré jusqu'à présent à quel point elle était déshéritée. Elle en avait la révélation. Elle comprenait à cette heure ce que René avait senti avant elle, combien sa solitude avait été triste. Elle savait pourquoi sa jeune tête se penchait parfois, vaguement inquiète, pourquoi mille puérilités qui montaient à ses lèvres s'arrêtaient figées avant d'avoir trouvé une expression, pourquoi les démonstrations de tendresse, si sévèrement condamnées par Chariclès, voulaient quand même se faire jour. Ah, ce n'était pas à lui que tout cela devait naturellement aller. C'était à sa mère, à la pâle morte ensevelie depuis si longtemps sous les roches du jardin. Voilà ce qui lui avait été ravi dès le berceau. Voilà le bien donné à tous et que des divinités féroces lui avaient à elles seules refusé. Penchée avidement, une main appuyée au montant de la porte, de l'autre comprimant les battements de son cœur, elle écoutait le torrent de paroles où se répandait la joie maternelle de Madame Caudal, pénétrée d'une vénération, d'un respect religieux, prête à tomber à genoux, et sans se douter aucunement qu'elle était devenue elle-même l'objet de l'admiration générale. Sous ses blancs vêtements attachés sans recherche, et dont Phidias aurait aimé à reproduire en marbre les gracieux plis, avec sa pure beauté de camée, elle semblait une immortelle. Et en même temps, sur ses traits impeccables, on lisait une si naïve envie. Il racontait si ingénument sa détresse, son désir d'être au banquet ouvert sous ses yeux, que tous se sentirent remués et conquis. Mais Hélène fut la plus prompte à deviner, la plus rapide à l'exécution. Déployant une grâce différente de celle de la jeune grecque, mais non inférieure, elle alla vers elle d'un pas vif, et lui prenant doucement la main. « Atlantis, lui dit-elle, je vous reconnais, René m'a tant parlé de vous, il y a longtemps que je vous aime. » Deux larmes pareilles à la rosée sur des violettes mouillèrent les longs cils d'Atlantis. « Moi aussi je vous connais, je vous aime, Hélène. » Puis, d'un ton mêlé de respect et de tendresse craintive, « C'est là sa mère ?» Sa voix, ses regards disaient clairement, « Puisse-t-elle m'aimer aussi ?» René ne voulait n'oser dire un mot. Il attendait, le cœur oppressé d'espoir et de crainte, connaissant les trésors de bonté que renfermait le cœur de Madame Caudal, mais au fait aussi de ses préjugés, heureux au-delà de toute expression de la saute soudaine qui changeait la face des choses, appréhendant néanmoins que quelque accroc, quelque malentendu vint tout gâter. Il n'avait pas compté en vain sur l'âme généreuse de sa mère. Elle aussi avait fixé un œil de sympathie sur la jeune grecque et, sous l'imposante perfection de sa beauté, elle avait vu l'âme d'enfant solitaire qui demandait un appui, qui avait soif de tendresse. Elle lui tendit les bras. « Mon enfant, dit-elle, venez m'embrasser. » Étouffant un cri, la jeune fille courut à elle et, tombant à genoux, elle voulait prendre sa main, la baiser. Mais Madame Caudal, la relevant, la pressa tendrement dans ses bras, et toutes deux mêlèrent des larmes dont elle n'aurait pu dire la source mystérieuse. Hélène et Patrice échangèrent avec René un rapide regard d'attendrissement. Du coup, tous deux étaient devenus complices. Quelque chose leur disait d'ailleurs confusément qu'un des nœuds de leur propre destinée venait d'être tranché. Mais, à la suite de ces mouvements d'émotion intenses, une sorte d'embarras était tombé sur les esprits. Le docteur Patrice vint à propos offrir une diversion en demandant qu'on le présentât à Mademoiselle Atlantis et qu'elle voulût bien le conduire sans tarder auprès de son malade. En vain, Atlantis, désireuse de remplir les devoirs de l'hospitalité, voulait qu'il s'accordât d'abord un peu de repos. Il déclara qu'il était venu expressément pour voir le seigneur Chariclès et le traiter de son mieux, non pour prendre ses aises. Comme, au fond, la jeune fille ne demandait pas autre chose, elle se mit en devoir de le précéder auprès du lit de son père, après avoir chargé Kermadec d'installer ses dames dans une petite salle de repos et de leur servir une collation. D'un signe, Madame Caudal avait autorisé son fils à suivre le docteur et, avec un regard de reconnaissance, René s'était empressé de lui obéir. « Tu comprends, » expliqua Madame Caudal, qui déjà trouvait qu'elle avait été bien vite en besogne, tandis qu'elle s'installait en compagnie d'Hélène sur les coussins d'un large divan. « Tu comprends, ma fille, que s'il ne convient pas que nous nous introduisions chez le malade avant que le docteur l'ait permis, d'autre part, les convenances exigent que René... « Oh, tante Alice, les convenances !» s'écria Hélène avec un léger rire. « Il me semble que nous les avons traitées assez cavalièrement en nous présentant dans cette demeure où personne ne nous invitait. »« Ah, mon Dieu, c'est très vrai !» s'écria Madame Caudal, consternée de la découverte. « Mais dis-moi, Hélène, crois-tu que Mademoiselle Atlantis considère notre venue comme impertinente ?»« Elle ?» dit Hélène vivement. « Ce front divin loger une pensée mesquine ? Ah, ne voyez-vous pas qu'elle n'a qu'une envie, la chère créature ? C'est de nous offrir tout son palais avec tout son cœur ? Ma tante, qu'elle est adorable et que je l'aime ! Hélène, tu vas trop vite !» dit Madame Caudal avec une raideur voulue. « Bah, vous l'aimez déjà, tante Alice, nous l'aimons tous ! On ne peut faire autrement, n'est-ce pas, Kermadec ? » ajouta-t-elle en s'adressant au brave garçon. Comme il poussait devant elle une table chargée de fruits qui paraissait cueillie dans le jardin des fées. « Bien sûr, mademoiselle Hélène !» répondit Kermadec, se figeant soudain dans l'attitude réglementaire d'un gabier parlant à ses supérieurs. « Avoue, Kermadec, qu'elle m'a supplanté dans tes affections !»«
Pour ça, non, mademoiselle. Sauf votre permission, personne ne passera jamais avant la mère et la sœur de mon officier. Mais à part ça, il n'y a pas à dire. La demoiselle de la mère est bien ce qu'il faut. »
« Hélène, » dit Madame Caudal, aussitôt que Kermadec se fut retiré. « À quoi songes-tu de parler si familièrement à ce matelot ?»«
Ah, tante Alice, Kermadec n'est pas un matelot, c'est un ami. Et puis, je suis si heureuse. On est bien ici. Voyez comme tout est splendide et brillant et paisible autour de nous. C'est le royaume de beauté, c'est l'Arcadie, c'est le pays idéal. Il n'y a rien ici de laid ou de méchant, plus de rang social, plus de maître ou de valet. » Nous sommes des naufragés sur un roc isolé. Tous les mensonges philistins ont disparu et la seule supériorité désormais entre nous sera celle de la bonté.
« Que veux-tu dire, ma fille ?» demanda Madame Caudal, inquiète et émue.
« Ah, vous le savez bien, tante chérie, mais je parlerai sans réserve. Plus heureuse qu'Atlantis, j'ai une mère, moi, et une vraie. Jamais je n'ai dû garder sur le cœur un secret, un poids quelconque. » Quelque fût-il que fussent mes joies ou mes chagrins, je pouvais hardiment vous les dire. Pour vous, ils étaient toujours intéressants. Je n'avais jamais senti, comme tout à l'heure, ce que je vous dois. C'est en voyant le regard de déshérité qu'attachait sur vous cette royale fille que je l'ai compris. La pauvre enfant, avec toute sa pompe et sa beauté, elle est plus indigente que le dernier des petits bohémiens, battue et rudoyée du matin jusqu'au soir, mais du moins embrassée et chérie par sa mère. « Ne vous semble-t-il pas que nous, si comblés d'affection, nous avons une dette à lui payer ? Que c'est à nous de la réconforter, de la consoler, de l'aimer, de lui rendre la part de bonheur à laquelle elle a tant de droits et qui lui a été injustement refusée ? Peux-tu douter, mon enfant ? » dit Madame Caudal attendrie, mais secrètement embarrassée. « Peux-tu craindre un instant que je ne sois prête à seconder ton élan généreux ? Tout cela est bien surprenant, bien étrange, bien précipité. » « Mais enfin, tu l'as vu, j'ai embrassé cette jeune fille. »« Oui, oui, vous avez été comme toujours exquise de tendresse spontanée. Mais ne vois-je pas bien que ce que vous estimez votre meilleur jugement vous reproche déjà ce mouvement béni ? Allez, écoutez votre cher cœur. Lui seul a raison. N'attendez pas qu'on vous supplie, qu'on vous arrache un consentement. Mettez-vous-même dans la main de René, la main de cette fiancée. « Hélène, mon enfant, que me dis-tu ? » s'écria Madame Caudal bouleversée. « Sais-tu bien que ce serait détruire mon espoir le plus cher ? Et c'est toi, toi, ma fille choisie ! » Des larmes s'échappèrent de ses yeux. « Votre fille, je la suis, » dit Hélène en l'entourant de ses bras. « Je ne saurais l'être davantage, eussiez-vous sans René à me faire épouser. Mais renoncez, bonne tante, à un projet qui ne ferait le bonheur de personne. Disons les choses comme elles sont. René ne veut pas de moi, et pardonnez mon impertinence. Je ne veux pas de lui. Voilà déjà, avouez-le, un pauvre commencement. Ajoutez à cela que tous deux nous avons, je veux dire que René a fixé ailleurs son choix irrévocablement. Voudriez-vous, par un projet chimérique, faire son malheur ? Son malheur ? Dieu m'en garde ! Mon fils chéri, tout ce que je souhaite, c'est de le voir heureux. Donnez-lui donc le consentement qu'il souhaite, ou plutôt non, pas de consentement. Courez au-devant de lui, dites-lui qu'Atlantis est votre fille. Atlantis, ma bru, une Néréide, une Ondine, une sirène, une femme habillée comme la Polymnie, gémit la pauvre Madame Caudal. Je lui prêterai une de mes robes, répliqua tranquillement Hélène. Que diront nos amis ? Que pensera notre entourage ? Que jamais fille plus belle, plus noble, plus intéressante n'entra chez les Caudal. Que vous avez trouvé ici une bru digne de vous. Qu'est-ce qui vous arrête, en somme ? C'est qu'Atlantis est étrangère, je ne veux pas dire étrange, le mot siérait mal à ce pur et paisible visage. Mais qu'elle soit noble de cœur et de tradition, vous n'en doutez pas plus que moi. Et ne pensez-vous pas, chère tante, que si son père, à elle, a accepté René pour fils, il a dû faire contre son inclination un effort autrement violent que celui qui vous est demandé, et tout me dit qu'il l'a fait. Ne vous laissez pas dépasser en générosité, tante Alice. Allez à eux, ils en sont dignes, et René vous en saura gré. » Hélène poursuivait son plaidoyer, le visage animé d'une généreuse ardeur. Elle ne s'était pas aperçue qu'au détour de l'allée, le docteur Patrice venait de paraître et s'était arrêté pour l'admirer. « Eh bien, Étienne, quelle nouvelle ?» dit Madame Caudal qui le découvrit la première. « Rien de décisif jusqu'ici, mais je ne suis pas sans espoir, relatif, s'entend, car de prolonger longtemps la vie du malade, il n'y a pas à y songer. J'ai fait déjà quelques applications d'électricité que je renouvellerai. Pour le moment, notre belle hôtesse exige que je vienne me rafraîchir et me reposer auprès de vous. La vérité, ajouta-t-il, tandis que les deux dames s'empressaient de lui faire place et de le servir, c'est que je n'ai besoin ni de repos ni de nourriture. Jamais je ne me suis senti si frais et si dispos. Quel lieu enchanté, quel séjour délicieux, c'est le propre jardin d'Armide. Le malade a-t-il repris ses sens ? Demanda Madame Caudal. « Pas encore, mais cela ne peut tarder. »« Pensez-vous qu'il ne serait pas indiscret de pénétrer dans sa chambre ? J'aurais à cœur de me trouver là à son réveil pour excuser notre venue et lui offrir nos civilités, » dit la bonne dame de son ton de cérémonie. « Et aussi, » ajouta-t-elle doucement, « je voudrais assister cette pauvre enfant dans sa triste épreuve, quoique nous n'ayons, hélas, d'autres consolations à lui offrir que notre sympathie. » « Soyez sûre qu'elle en sera reconnaissante, » s'écria Patrice plein de chaleur, « et qu'elle ne pourrait être mieux placée. J'ai vu bien des lits de mort, mais jamais rien qui ressemble à cela. Songez que la couche étroite où expire ce vieillard contient tout l'univers pour cette jeune fille, tout ce qu'elle a connu jusqu'ici. Son attitude est admirable. Que de dignité simple et contenue dans sa douleur. Et pourtant, quoi de plus navrant que l'abandon où elle va rester ? « Allons auprès d'elle, » dit Madame Caudal vivement. « Puisque vous nous y autorisez, je me reprocherai de tarder un moment de plus. » Ils se levèrent tous trois et, quittant la salle de repos, le docteur les précéda vers l'appartement du malade. Atlantis et René avaient repris la place si longtemps occupée par eux au chevet de Chariclès. Le vieillard étendu sur le lit de pourpre gardait son immobilité de statue, mais son aspect n'avait rien de pénible. Depuis quelques instants, une légère teinte de vie était venue animer le marbre délicat de ses traits. Il était si parfaitement beau ainsi que les deux visiteuses s'arrêtèrent pénétrées de respect comme au seuil d'un sanctuaire. Déjà René et Atlantis venaient à elles, les engageaient à s'asseoir. Mais Patrice, habitué par profession à lire dans les cœurs et toujours ingénieux à faire le bien, comprit que la mère et le fils brûlaient d'avoir un entretien à fond, que d'autre part, nul ne verserait le baume d'une main plus délicate dans le cœur d'Atlantis que sa chère Hélène. « Avec votre permission, dit-il sans embâge, je désirerais qu'on me laissât pour une heure ou deux en tête-à-tête avec mon malade. Voici un petit salon, désignant une pièce voisine, où tu peux installer ta mère confortablement, mon cher Caudal, et rester à portée de m'aider si besoin est. Quant à vous, mesdemoiselles, je me permets, en ma qualité de docteur, de vous ordonner un tour de promenade. Je n'ai aucun besoin de vous pour le moment, mais votre concours pourra plus tard être nécessaire. Il est donc de votre devoir de prendre des forces, et un peu de distraction est ce qui conviendra le mieux. Je suis sûre que mademoiselle Atlantis se fera un plaisir de promener sa visiteuse à travers ses admirables jardins.
« Voulez-vous ?» dit Hélène, montrant un sourire irrésistible. « Ah oui, je veux !» dit Atlantis, dont le regard d'une inexprimable douceur s'arrêta sur les yeux bruns d'Hélène. Les deux jeunes filles s'éloignèrent. Pendant quelques minutes, elles ne se dirent rien, occupées qu'elles étaient chacune de leurs pensées. Au détour d'une allée, Atlantis parla la première.
« Hélène, dit-elle, je voudrais vous dire ce que j'éprouve, et je ne sais pas l'exprimer. Comment, vous ayant connu, René peut-il m'avoir choisi ?»«
Je suis la sœur de René, dit Hélène simplement. La vôtre, par conséquent.
Ma sœur ? Vous voulez être ma sœur ? Oh, c'est trop de joie en un seul jour.
Cher Atlantis, dit Hélène, l'entourant de son bras. « Ne voyez-vous pas que c'est moi qui suis favorisée ?» Engagée sur ce ton, la causerie continua. Bien des confidences furent échangées, et lorsqu'au bout de 2 heures, René vint inviter les deux jeunes filles, de la part du docteur, à revenir auprès du malade, elles étaient amies à jamais. Patrice les convoquait pour assister au réveil imminent de Cariclès. Assemblés autour du lit, ils attendaient tous en silence le changement qui s'annonçait depuis quelques minutes par des signes précurseurs. Soudain, un phénomène inouï se manifesta. Le timbre d'appel de la porte d'eau venait de se faire entendre. 2 fois de suite, la sonnerie fut réitérée. Qui pouvait venir frapper à ces profondeurs ?